Voilà, voilà la Dame Blanche qui nous chante Quiero Trabajar pour introduire notre prochain invité, Éric Carlos Bertrand, artiste vraiment fort inspiré et galeriste à la direction de Cache Studio, un endroit fort apprécié dans le quartier Centre-Sud. In situ a rencontré le galeriste jeudi passé pour en savoir plus sur cette galerie et pour qu'il nous présente sa participation actuellement à deux expositions, dont une qui se déroule présentement à sa galerie, Les Imagiers de la matière. Voici l'entretien. Éric Carlos Bertrand est galeriste, mais aussi artiste. Alors, j'ai le plaisir de le rencontrer à l'Espacio Mexico, où se déploie une exposition solo d'envergure. Mais avant de parler de cette exposition qui réunit vraiment un grand nombre d'œuvres, parlons de cette galerie, Cache Studio, cette jeune galerie dans le Centre-Sud, qu'il a ouvert, je pense, dans un passé récent. Et je suis ravie de pouvoir le rencontrer, lui poser quelques questions. Bienvenue.
Merci. Ça me fait plaisir d'être ici.
Si vous me présentiez un petit peu l'histoire de cette galerie qui est magnifique et bien, bien éclairée, bien spacieuse.
Bon, en principe, je suis arrivé du Mexique parce que j'ai fait mes études là-bas, puis je cherchais un lieu pour qui pouvait accueillir mon studio et aussi qui pouvait accueillir des expositions, parce que j'avais vu beaucoup que là-bas, c'est quelque chose qu'on faisait assez souvent, d'utiliser son studio comme lieu d'exposition.
C'est une bonne idée, ça se fait ici, mais pas assez souvent.
Ça se fait pas ici, puis en fait, je pense que la masse critique, il n'y a pas assez de gens, pas assez de collectionneurs, pas assez d'etc., de gens intéressés à l'art. Ça prend une certaine proportion de gens qui le sont. Le collectionnisme, là-bas au Mexique, ça fait très longtemps, il n'y a pas de rupture. Ici, on dirait que chaque génération recommence à chaque fois à apprendre. Mais avec le COVID, puis avec comment le COVID a permis au marché de complètement s'intégrer aux stratégies en ligne. Puis il y a beaucoup d'artistes aussi qui ont commencé qui exposaient presque plus parce que le système est très exigeant pour les artistes ici. Des artistes de très bonne qualité. En l'occurrence, la galerie, on monte juste de la peinture parce que c'est ma spécialité. Puis j'ai trouvé je me suis rendu compte que tout à coup, que c'était très, très facile d'obtenir de la très haute qualité.
Avec des appels,
très
des appels d'artistes.
En cherchant sur Instagram, en les contactant directement, tous les artistes ou presque, c'est des gens que je ne connaissais pas, que j'ai invités. En fait, jusqu'à présent, tous les artistes que j'ai exposés, je ne les connaissais pas avant, il y a 6 mois. Puis en cherchant sur Instagram, je les ai trouvés, je les ai contactés, puis ils étaient tous très enthousiastes d'un projet qui n'exigeait rien d'eux, qui n'exigeait pas un texte, au contraire, c'est nous qui fournissons les textes, c'est nous qui fournissons, qui font la promotion.
Alors, c'est la particularité de votre galerie d'inviter et d'offrir des facilités aux artistes là, pour leur promotion?
Oui, ou à des commissaires, par exemple. En l'occurrence, l'exposition qui a lieu en ce moment d'une jeune commissaire qui s'appelle Mathilde Bois, que vous allez interviewer. C'est une jeune commissaire. En fait, elle est philosophe, mais qui a un très bon œil aussi. Et en fait, elle fait aussi de la peinture. Elle est comme multitask,
multidisciplinaire, oui.
Et puis, je l'ai invitée parce que j'ai senti qu'il y avait un très beau projet. Elle est arrivée avec un projet déjà fini qu'elle va exposer ensuite à Québec.
Oui, cette exposition fait halte à Montréal avant d'aller à Québec. Elle est magnifique.
C'est ça. Ouais. Curieusement, ça faisait longtemps qu'elle essayait de se faire à Québec. Elle a trouvé un lieu, mais elle va avoir lieu ici avant parce que on avait un agenda ouvert. Puis c'est une des particularités de notre espace, c'est qu'on est très flexible aussi. On peut faire des choses assez spontanément sans avoir, bon, par exemple, on a des expos planifiées d'ici un an, mais on peut toujours faire un événement entre ces expos-là.
Il y a une souplesse qui vous caractérise. Et évidemment, c'est une jeune galerie. Vous l'avez ouvert à quel moment?
Ben, j'avais déjà fait des événements auparavant, un peu comme pour sentir la chose. Ça fait 10 ans que c'est mon atelier. Puis, peut-être au début de l'année, juste avant que le COVID referme tout, qu'on retourne en confinement, au plus sévère du confinement, on allait avoir une exposition. Ce printemps, même en février, je pense. En tout cas, mars, quelque chose comme ça. Puis, on est obligé d'attendre jusqu'en mai. Cette exposition-là qui s'appelait Rareté, dont le commissaire est un artiste, qui s'appelle Mark Knowles, a invité des amis que je ne connaissais pas. Et tous des très bons artistes. Alors, on a eu cette exposition-là. Ensuite, on en a une autre qui s'appelait D'une dimension à l'autre, avec encore trois très jeunes artistes et un artiste plus vieux, quoi, qui est en carrière, qui s'appelle David Gagnon, dont l'œuvre est extraordinaire. Il y avait Dexter, bon, je ne veux pas tous les nommer, mais il y avait Dexter Barker-Glenn, il y avait Trevor Bourke, il y avait Philippe Denis dans cette exposition-là. J'aurais dû nommer les antérieurs. Mais en tout cas, il y avait, pour ça, il y a le site web là, que je donnerai plus tard, mais il y a, puis ensuite, il y a l'exposition maintenant. Donc, ça fait trois expositions. J'ai fait un événement de networking, j'ai fait des expositions personnelles, j'ai fait des petits événements, puis là, lentement, j'ai commencé à trouver un format, etc. Il se trouve que maintenant, il y a d'autres galeries qui font des choses assez similaires. Il y a un espace formidable qui s'appelle Produit Rien, en Parc Extension, il y a Casa. Et puis, toutes les galeries ont des formats différents. Ça qui est intéressant, c'est qu'on a des approches très différentes, chacune. Puis,
mais ce qu'il y a en commun entre ces différentes galeries, c'est la souplesse, je crois.
Oui, puis la non-dépendance de soit c'est des gens qui ont de l'argent pour faire les projets, soit c'est des gens qui font les choses avec peu de moyens. Il y en a une, par exemple, Produit Rien, c'est un atelier, comme le mien. Ils fonctionnent sur eux, ils reçoivent des appels, des demandes des artistes. Casa, c'est des expositions commissariées. Nous, c'est un peu un mélange. C'est un peu les deux, les mêmes choses. Des fois, il y a des gens qui nous arrivent avec des projets très, très bons. Des fois, des artistes nous arrivent avec des projets extraordinaires. Des fois, c'est moi qui ai une idée. Des fois, c'est ma copine va faire la prochaine exposition, juste des femmes. Donc, ça change à chaque fois, en fait.
Donc, en tout cas, vous éloignez peut-être d'une approche plus institutionnelle. Hein?
C'est précisément la même. Je pense que c'est comme ça que j'aurais exprimé mon âme, ouais.
Et voilà, pour le plus grand plaisir, pour le plus grand contentement des artistes qui participent. Et parlez-nous de la beauté de vos lieux. C'est quelque chose qui frappe dès l'entrée.
Bien, c'est drôle parce que vous dites ça, parce que souvent, les œuvres qui sont sur les murs sont vraiment... moi, je trouve... je suis fan de les artistes qui passent là.
J'adore. Il y a les œuvres, bien sûr, mais on va parler peut-être du lieu de diffusion.
C'est ça, c'est que souvent, les gens commentent premièrement sur le lieu de diffusion. Ils sont impressionnés par le lieu. Bon, c'est sûr que le lieu prend toute la dimension.
Oui, alors, le plafond est haut. Il y a un puits de lumière.
Oui, il y a deux puits de lumière. Oui. J'ai une porte pivotante qui cache mon atelier. Donc, l'atelier se referme sur lui-même. C'est un espace qui est une galerie naturelle, en fait. Puis c'est vraiment... Il y a un beau jardin. L'été, c'est vraiment accueillant. Il y a un divan au milieu. Ce qu'on ne retrouve pas dans les galeries, en fait. Personne ne peut s'asseoir. Donc, qu'est-ce qu'il y a avec les gens qui ont plus que 60 ans, qui veulent prendre un petit repos? Il n'y a pas moyen dans une galerie privée. Il n'y a pas de comptoir. Il n'y a pas rien qui sépare nous des clients ou nous des visiteurs. Je ne vais pas les appeler des clients. On se parle à tout le monde, aux artistes comme aux gens qu'on ne connaît pas.
Et vous avez décidé de vous installer quand même dans un quartier où il n'y a plus de galeries, somme toute. Quartier Centre-Sud?
Oui. Faut dire que ça commence. Hein? Je veux dire, il y a Fondation Molinari qui est là depuis longtemps, qui est plus à l'est. Oui. C'est un peu isolé.
Qui est plus dans ce Hochelaga,
oui. Mais il y a aussi, sur Amherst, à côté du Mousseau, je viens d'apprendre qu'il y a une galerie qui va ouvrir là bientôt, une galerie d'art moderne.
Oui, M. Cazot, je pense.
C'est ça, exactement. Il y a...
donc, c'est en développement. Oui, c'est ça. Oui, je l'ai rencontré récemment.
j'ai hâte de le rencontrer, mais je ne l'ai pas rencontré, mais je suis un ami, ou bon, je dirais un ami, une connaissance d'Antonin Mousseau, qui a travaillé au Musée d'art contemporain pendant que je travaillais là-bas. Puis, on a parlé de ça, il m'a dit « Ah, regarde, il y a une galerie, etc. » Puis ça nous excite les deux, parce que lui, bon, son grand-père est un grand signataire du Refus Global, M. Mousseau. Puis, moi, évidemment, j'adore l'art moderne. Peut-être on peut le voir ici, il y a beaucoup de références à l'art moderne. Et là, de voir quelqu'un qui vient s'installer, là, qui est sérieux dans le coin, ça, c'est vraiment le fun.
Absolument. Alors, c'est enthousiasmant, ce développement-là qui pointe à l'horizon dans le quartier Centre-Sud, parce que c'était un petit peu délaissé. Il y a la Maison de la culture Frontenac, là, qui était le principal lieu de diffusion jusqu'à dans un passé encore récent. Merci. Alors, si vous me parlez vous avez comme glissé mot de l'exposition qui est en cours, qui est très intéressante, les imagiers de la matière. Si vous en parliez très brièvement. Et parce qu'on va interviewer la commissaire, mais peut-être de nous parler de votre participation à cette exposition-là. Brièvement.
Si je vais brièvement, c'est tous des artistes qui fabriquent des objets avec le but unique des représentants en deux dimensions sur des toiles ou sur des, on pourrait dire, sur des panneaux de bois, bon, tout sur quoi on peut peindre aujourd'hui. Ça regroupe Rosalie Gamache, Olivier Moisan Dufour, Marie-Claude...
Sébastien Godet.
Sébastien Godet, Marie-Claude Lacroix et Alexandre Pépin, moi-même. À l'origine, je n'allais pas être inclus dans le projet. J'étais arrivé, j'ai invité Rosalie Gamache, que j'ai connue comme ça, puis que j'ai contactée à travers Instagram, puis elle m'a présenté le projet. Elle m'a parlé du projet comme ça, sans façon. Et je lui ai dit, mais voyons, c'est un projet qui est déjà monté. L'avez-vous déjà monté? Non. Puis, avez-vous une place à Montréal? Non. Puis, je lui ai dit, mais faites-le ici. Puis, donc, la résultante, c'est que non et seulement ils m'ont invité à l'exposition.
Et d'autant plus que vous souhaitez encourager peut-être la relève, hein, les
oui,
jeunes.
Oui, tout le temps. On veut seulement et exclusivement, peut-être, disons, à 90 % exposer des artistes qui ne sont pas représentés, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, puis comme je disais, c'est exigeant pour les artistes d'exposer ici à Montréal. Il n'y a pas beaucoup de lieux. Le COVID a retardé toutes les expositions. D'ailleurs, c'est un peu la vertu CASA. Ils ont ramassé plein d'expositions qui n'ont pas eu lieu ailleurs pour les exposer dans CASA. Et bon, en fait, elle est arrivée, elle m'a montré ça, puis là, elle a vu mon travail, puis elle m'a dit « Ben oui, mais ça rentre, c'est parfait. » Alors, bon, évidemment, j'ai pas pu dire non. Quoique mon objectif, c'est pas d'utiliser mon espace pour mon œuvre personnelle. Mais de temps en temps, puis là, dans le cas, ça se donnait.
Et pourquoi pas? Mais parlez-nous de votre œuvre qui est très intéressante.
De l'œuvre dans l'exposition là-bas? Oui. C'est une œuvre... Bon, j'ai fait des séries de portraits fictifs de Machiavel parce que la question de l'image, l'imagerie collective... Là, je cite un théoricien politique, un livre que j'ai lu sur l'œuvre de Machiavel. Il y a l'image... l'imaginaire collectif qui est associé à Machiavel... le nom de machiavélisme, et il y a l'œuvre de Machiavel. Alors, je me suis posé des questions sur l'image et comment l'image pourrait influencer notre conception de l'œuvre. Dans le cas de Machiavel, c'est vraiment intéressant parce qu'il n'y a pas de séparation entre les deux. Il faut passer à traverser la question du machiavélisme, qui a une connotation très négative,
oui,
pour avoir accès à l'œuvre. On ne peut plus faire l'un sans l'autre. Alors, je me suis dit, si je faisais des portraits de Machiavel imaginaire, parce qu'il n'existe pas de portrait, jusqu'à preuve du contraire, de Machiavel, qui ont été faits durant son vivant. Si moi, je réalise des portraits, sont aussi valides que le fameux portrait de Santi Zito qui nous vient à la tête quand on pense de Machiavel, de quoi il a l'air, etc. Donc, j'ai fait des portraits. Un portrait, une effigie qui a été faite à partir aussi d'une œuvre, un peu, je me suis inspiré d'une œuvre anonyme de Machiavel qui a été réalisée, comme je le dis après. Et j'ai réalisé mon premier portrait. C'est sorti comme ça, complètement... Je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose là de l'imaginaire collectif. Alors, j'en ai réalisé un autre en m'inspirant de celui-là, un autre en m'inspirant de celui-là, en travaillant un peu la généalogie, une espèce de généalogie de l'image. Et puis, ça a donné une série de tableaux de grand format.
Et très intéressante. Il faut absolument aller voir de près cette œuvre qu'on a, l'œuvre qui a été présentée, qu'on a photographiée fort heureusement. Éric Carlos Bertrand, c'est réellement une période de haute visibilité pour vous actuellement. Vous avez un solo à grand déploiement à l'Espacio Mexico pour encore plusieurs semaines.
Jusqu'au
28 janvier, c'est une présentation, cette œuvre, cette exposition fleuve.
Exposition fleuve. Un lien qui entre l'espace et cette œuvre-ci, c'est que les pièces que je vends vont au financement de l'autre, de l'espace, de la galerie.
Ah, bien, c'est intéressant de l'apprendre. Et quand je parlais d'exposition fleuve aussi, c'est une exposition fleuve d'œuvres miniatures.
Oui. Alors, justement, on m'amène cette liste. Voici les listes, la liste, le catalogue de l'exposition. C'est un aspect qu'on n'a pas encore mis en évidence, mais qui... tous les titres sont tous titrés. Il y en a mille et une. Des œuvres que j'ai réalisées pendant le COVID.
C'est ça. C'est une exposition significative parce qu'elle vous a permis de passer à travers la période difficile de la pandémie. Elle est titrée « Mille et une nuits ».
Puis, bon, j'appelle ça « Mille et une nuits » parce que c'est vraiment... chaque tableau est une genre de nuit. Même si il fait clair dans la nuit, c'est comme une vision que j'ai eue à ce moment-là.
Une lumière dans la nuit.
Oui, comme une fenêtre pour passer outre les murs.
Une fenêtre allumée dans la nuit.
C'est ça. Donc, comment on fait pour passer à travers ces murs-là qui nous confinent? Puis, son nez aussi, ces œuvres-là, ça a commencé quand je dessinais avec ma mère dans le CHSLD, ma mère qui était atteinte d'Alzheimer, c'est la seule manière de communiquer avec elle, etc. Elle était peintre. Puis, donc, on dessinait, puis c'est la seule manière vraiment. Elle avait oublié qui j'étais. Peut-être qu'elle savait qu'il y avait une présence familiale. J'ai aucune idée. Très rapidement, la maladie a affecté son cerveau au niveau du langage. Puis, j'allais à mon atelier, puis je continuais un peu comme si j'essayais de peupler ses mémoires. C'est comme ça que je l'ai exprimé. Ça m'a semblé assez concis. Peupler ses mémoires à travers mes peintures. Et puis, quand le COVID est arrivé, dont elle est peut-être décédée, parce qu'elle est décédée juste avant qu'on a déclaré la pandémie, puis elle était dans un CHSLD. Là, j'ai comme continué, mais d'une manière encore plus forte. Bon, il s'était passé une série d'affaires, des embûches personnelles, etc. Et là, j'ai comme redoublé le travail. Puis ça commence à sortir. Là. C'est comme si je vomissais ces paysages-là, qui sont comme des petites fenêtres.
Oui, parlez-nous. Ce sont une série de petites huiles sur bois. Oui. Et qu'est-ce que vous représentez?
Oui. Ben c'est comme en mi-chemin entre le paysage de la carte postale d'un pays un peu étrange, puis c'est vraiment des personnages. Hein.
Moi, j'ai des personnages, mais il y a aussi des œuvres plus abstraites là.
Il y a des, ouais, mais si vous regardez longtemps, c'est parce que j'ai tellement l'habitude de faire des foules que les gens voient des personnages dans les paysages abstraits. Donc je joue un peu là-dessus. Si les gens prennent leur temps, mais il y a un phénomène qui s'appelle la pareidolie. Qui la tendance qu'on a de distinguer des formes abstraites, comme les tranches Rorschach, des choses. Donc, je me sers de ça, je multiplie les possibilités de reconnaissance de personnages. Alors, les titres qui sont ici, c'est un peu ça, c'est un peu une manière de stimuler poétiquement ou ironiquement ou.
Oui, vous avez des titres très évocateurs, en grand nombre.
Oui, puis c'est dans les trois langues, c'est-à-dire que j'ai été pigé dans les dictionnaires d'argot, de québécois populaire ou de mexicain, même juste dans la langue populaire, là, que ce soit pas local, c'est souvent local, mais même dans l'espagnol, j'ai vécu à Barcelone un certain temps, donc il y a des expressions là-dedans. Donc, mille et un titres qui évoquent un contexte, une histoire, une blague.
Ce sont des titres très narratifs.
Ce sont des titres narratifs ou qui tendent vers la narration ou qui débutent. C'est comme des catalyseurs d'imagination.
Alors, Éric Carlos Bertrand, il y a beaucoup à voir ici à profusion dans le cadre de cette exposition « Les mille et une nuits ». Si vous nous présentiez très brièvement votre parcours artistique. Vous êtes un artiste, je pense, très diversifié, hein?
J'ai fait beaucoup de choses. Je suis parti ici, j'ai étudié ici en art visuel. Bon, j'ai toujours dessiné depuis que j'étais très jeune. Je me souviens, arrivé au cégep, j'ai fait énormément de dessins.
C'est le dessin, le fil conducteur de votre parcours?
Oui, ben c'est là que ça a commencé. C'est vraiment le dessin, comme pour tout le monde, presque, hein, qui ont pas les moyens. Bon, il y a la plastine, etc., mais ce qui est plus facile, c'est le dessin. Hein. On a besoin qu'un crayon puis une feuille de papier. Puis bon, ensuite, au cégep, c'était dessiné sur les sacs des filles que j'aimais bien, ou des choses comme ça. Puis j'ai toujours dessiné des espèces de villes, donc il doit avoir un rapport avec ça ici. Puis ensuite, j'ai été étudiant en histoire de l'art.
Vous avez fait mon année de formation en peinture, hein?
Oui. J'ai commencé en sculpture, en installation, mais mes sculptures étaient tout le temps très, très, très colorées. Puis les professeurs que j'ai eus, entre autres Peter Cross, par exemple, qui est un excellent dessinateur, a reconnu quelque chose. Il y avait Pierre Grange aussi, au niveau conceptuel, un grand visionnaire. Bon, ces deux professeurs-là m'ont ils ont compris quelque chose en moi. Ils ont comme canalisé ma rébellion vers quelque chose de plus créatif, de positif. Puis là, j'avais fait, avant d'étudier en art, presque un bac en histoire de l'art, puis j'avais fait un deck en design graphique. Donc, j'avais déjà ma technique. De composition et tout ça. Fait que j'ai été obligé de me donner à cœur joie à des choses beaucoup plus fantaisistes. Et ensuite, bon, j'ai fait une maîtrise en sculpture à Mexique, mais j'ai fait la sculpture ma maîtrise en sculpture, sachant que je voulais de la peinture, mais il n'y avait pas de prof que j'aimais. Donc, j'ai fait ça en sculpture. Et puis là, ben, je peignais, de toute façon. Puis
la peinture s'imposait.
Oui. Puis au Mexique, c'est quasiment c'est impossible de pas. On marche dans la rue, on voit des murales, les grands muralistes, etc.
La peinture vous a rattrapé finalement et aussi le métier de galeriste. Parce que vous êtes artiste, mais vous avez devenu aussi galeriste.
C'était l'art conceptuel au Mexique. Des merveilleux artistes conceptuels, en passant, qui ont complètement dominé la scène. Puis là, tout à coup, on s'est rendu compte que la peinture a pris un bord là-bas. Ça, c'est arrivé ici dans les années 70. Là-bas, c'est arrivé dans les années 90. Gabriel Roscoe, Francis Alice, qui est un merveilleux peintre. Gabriel Roscoe, qui est un merveilleux dessinateur, mais qui sont devenus des artistes conceptuels. Puis là, tout est tombé à côté. Fait que je me disais, merde, qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Au Mexique, il y a toujours de la place pour tout le monde. Ici, c'est comme si le lieu fait entonnoir, puis on laisse de côté plein de gens.
Mm. De là, l'objectif d'ouvrir une galerie plus représentative, d'une offre artistique d'ici.
Le fait que moi, j'ai été au Mexique, puis que j'ai fait partie de ma carrière là-bas, puis je suis revenu ici à une certaine époque où déjà j'avais un certain âge, j'avais pas exposé dans les centres d'artistes, j'avais pas exposé dans les galeries, mon travail était déjà un peu... le format de mon frère n'était pas vraiment ce qu'il cherchait ici, donc j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ce que je devais faire ici. J'étais allé en Espagne après. En Espagne, c'était un peu la même chose. J'arrivais comme un étranger. J'ai toujours une espèce d'immigrant artistique.
C'est un projet qui vous tient à cœur pour la galerie, en terminant la résidence.
Ah, OK, peut-être la résidence de la galerie. Bien là, c'est parce que ça fait longtemps qu'au Mexique, j'ai connu des artistes qui sont énormes là-bas, puis ici, on les connaît pas. Mais, en l'occurrence, ils ont exposé dans celui-ci, dans l'espace au Mexico, entre autres Demian Flores, par exemple. L'autre qui s'en vient, j'espère que ça va marcher, parce qu'il y a Micron là, qui se menace avec ses grands crocs méchants. Mais il y a Gerardo Clint Montiel, qui est un extraordinaire photographe. Donc, lui, j'aimerais bien l'amener chez nous. Je dis chez nous parce que c'est aussi chez nous. Mais
À Cache Studio.
Oui. Merci. Et qu'il montre son travail, qui n'est pas connu ici.
Et qu'il réalise peut-être des œuvres ici.
Qu'il réalise des œuvres ici, qui connaissent le contexte, qui se déploie ici, que les gens le reconnaissent un peu, qu'ils connaissent. Puis ça, c'est lui cette année, en février. L'année prochaine, ça va être Demian Flores. On en a parlé tout de suite avec, juste avant l'entrevue, là, ou durant l'entrevue, on avait posé, mais des gens qui travaillent à Oaxaca, qui est un énorme artiste là-bas, qu'on ne connaît pas ici, qui a exposé dans l'Espacio Mexico avant. Mais qui n'est pas reconnu. Puis il y a une série de fabuleuses gravures. En tout cas, c'est comme déjà fait. Il peut l'apporter sur le bras. Aussi.
Alors, j'aperçois que ça vous fait déjà rêver, ce projet de résidence pour votre galerie. D'autant votre jeune galerie Cache Studio. Oui.
C'est un peu l'application du trot. Eux m'offrent quelque chose là-bas, que ce soit pour moi et mes artistes, et eux, ils viennent ici. Alors, l'échange se fait, on brise un peu le moule de tu dois appliquer, tu dois être reconnu, tu dois être découvert, etc. Puis dans la foulée de l'intention là, que j'ai profonde avec la galerie, là, la stratégie de rendre l'artiste son propre manager, mais là, on va un pas plus loin. C'est juste une manière de donner plus de pouvoir
et
à l'artiste.
Et bien sûr, aider à la promotion, à la visibilité de ces artistes. Manque malheureusement trop souvent de lieux de diffusion répondant à leurs besoins. Merci beaucoup. Éric Carlos Bertrand, de nous avoir présenté cette jeune galerie encore qui existe à peu près depuis bientôt un an.
En réalité, mais même pas.
Qui existe depuis même pas un an.
On va dire 6 mois, réellement.
Et des deux expositions en cours à la galerie à laquelle vous participez et à Espacio Mexico. La galerie actuellement en cours, l'exposition actuellement en cours à votre galerie se termine bientôt dans une semaine. Les imagies de la matière. Ouais. Le 19. Mais ici, à Espacio Mexico, il y a moyen de venir voir votre exposition encore plusieurs semaines jusqu'à quand?
Jusqu'au 4 janvier, oui.
Merci beaucoup, ça fait un plaisir d'échanger avec vous. Merci.
Merci beaucoup.
Vous écoutez le magazine radio In Situ sur Radio Centre-Ville 102,3 FM à Montréal.